Chapitre 55. La Petite Silence se leva et se dirigea vers une ouverture obscure au fond de la salle. Après son départ, ses six familières s'affairèrent frénétiquement. Retirant des bocaux, des cornues et des jarres de la paroi, elles les remplacèrent par d'autres récipients, le plus souvent plus grands et, à première vue, vides. Les prisonniers de la muraille végétale qui vivaient encore suivirent ce spectacle d'un regard affligé. Henrik aurait aimé pouvoir les aider, mais c'était hors de sa portée. En fait, il ne pouvait même pas s'aider lui-même. Jit était parti avec la jarre qui contenait le trésor récupéré sous les ongles d'Henrik. Le couvercle n'étant pas étanche, un peu d'eau turbide s'était renversée sur le chemin de la Petite Silence. Émergeant des parois végétales, de gros insectes brunâtres vinrent se repaître de cette manne. Sous le regard courroucé de l'évêque Ark, les familières continuèrent à sélectionner les bons récipients parmi les centaines que contenait la salle. Sur un homme entièrement tatoué, la fureur était encore plus impressionnante que sur un individu normal. Évitant de le regarder, les six créatures survivantes continuèrent à trier les récipients. Chacune en eut bientôt collecté une bonne demi-douzaine, à part la manchotte, qui faisait pourtant de son mieux pour ne pas se laisser dépasser par ses sœurs. Dès qu'elles eurent ce qu'elles voulaient, les familières se ruèrent sur les talons de leur maîtresse. Les attendant dans le couloir obscur, sa jarre au creux d'un bras, Jit s'empara d'un bâton de marche appuyé contre une paroi. Puis, elle regarda Henrik par-dessus son épaule et lâcha une série de couinements qui devaient être des ordres. La familière manchotte vint se placer derrière le gamin et le poussa vers la Petite Silence.
« Jit veut que tu te dépêches de nous suivre !»
dit-elle avec un regard en coin pour l'évêque.
« Quand nous en aurons terminé, je te viderai de ton fluide vital et j'offrirai ta pathétique dépouille au cafard. »
Henrik se pétrifia de terreur. D'un geste agacé, la familière le poussa de nouveau vers le tunnel. Alors qu'il avançait sur des jambes tremblantes, le gamin songea qu'il aurait tout donné pour être avec sa mère, sous leur tente, en train de fabriquer des colliers de perles. S'il n'était jamais venu voir la Petite Silence, une idée de sa mère, il devait l'admettre, sa vie aurait pu être si différente. Depuis qu'il avait compris que ses poursuivants le poussaient vers la trace de Karga, où la Petite Silence l'aurait de nouveau en son pouvoir, il craignait d'être dans l'impossibilité d'en repartir. Pour lui, le chemin allait s'arrêter là. L'évêque se plaça en queue de la petite colonne qui suivit Jit dans un corridor, où des objets pendaient du plafond au bout de lanières de cuir. Henrik vit qu'il s'agissait de crânes de petits animaux, de carapaces vides de tortues et même de cadavres de rongeurs ou de reptiles. Les prisonniers des deux parois végétales ouvrirent les yeux sur le passage de la courte procession, mais ils les détournaient dès que l'évêque Ark soutenait leur regard. Ces suppliciés n'émettaient pas un son. Pourtant, à leur place, Henrik aurait appelé à l'aide à s'en briser les cordes vocales. Hélas, personne ne pouvait rien pour ces malheureux. Ni pour le gamin, d'ailleurs. Alors qu'il s'enfonçait dans la tanière de la Petite Silence, Henrik commença à entendre des bourdonnements d'insectes, des trilles d'oiseaux et des sifflements ou des cris d'autres animaux. Quand Jit et son escorte émergèrent soudain à l'air libre, sous un ciel d'encre, un silence de mort tomba sur le marécage. Ici, le sol était assez au-dessus du niveau de l'eau pour être parfaitement sec. Semblables à des spectres encore enveloppés dans leur linceul, les grands arbres aux branches lestées de lourds rideaux de mousse paraissaient vouloir fondre sur les intrus comme une meute de loups sur ses proies. En traversant l'étrange clairière, Henrik s'aperçut que les pierres plates qui jonchaient le sol n'étaient pas disposées au hasard. Placées chacune sur un petit monticule de terre, elle dessinait une sorte de figure circulaire qui conduisait très exactement au centre de la zone. Dès qu'elle l'eut atteint, la Petite Silence commença à tracer des lignes dans la terre avec le bout de son bâton sculpté. Très observateur, Henrik remarqua très vite que ses dessins ressemblaient beaucoup au tatouage de l'évêque Ark. Au milieu du bâton de Jit, accroché à des lanières de cuir, le gamin distingua une série de plumes bleues, de perles orange et jaune et de pièces de monnaie trouées au milieu. Intrigué, il se demanda pourquoi la Petite Silence accordait tant d'importance à l'argent, car à l'évidence, le bâton comptait énormément à ses yeux. dans la solitude de la trace de Karga, à quoi pouvaient bien lui servir ces pièces? La réponse apparut brusquement à Henrik. Jit n'était pas attaché à son trésor à cause de sa valeur d'échange, comme la majorité des gens, mais parce qu'elle avait pris cet argent aux prisonniers de la muraille végétale. Pour elle, il s'agissait de trophées, comme les plumes qu'elle avait volées sur des cadavres d'oiseaux. Alors que les familières disposaient les jarres autour de leur maîtresse, l'évêque Arc resta un peu à l'écart et suivit les préparatifs d'un regard rouge toujours brillant de rage. De temps en temps, une des six créatures lui jetait un coup d'œil furtif. Concentré sur sa tâche, Jit ne daignait même pas tourner brièvement la tête vers lui. Continuant à dessiner en psalmodiant entre ses lèvres cousues, elle ouvrait régulièrement une jarre, plongeait les mains dans le liquide noir et déposait au centre de son œuvre les immondices qu'elle venait de pêcher. Soudain, elle brandit son bâton en direction du ciel où dérivaient des nuages bas aux entrailles rougeoyantes. Après avoir lâché une série de sons étranglés, elle se pencha et posa le bâton au centre de la figure géométrique tracée sur le sol. Aussitôt, le dessin brilla vivement. À la stupéfaction d'Henrik, au moment où la Petit Silence leva les bras, les nuages menaçants s'immobilisèrent.